Vous allez bien, tout le monde? C'est bien, gloire à Dieu. On va lire Éphésiens chapitre 6, verset 10, s'il vous plaît. Éphésiens 6, 10. Puisez votre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Oui, ce n'est pas un long texte ce matin. Pourquoi je veux prêcher ça ce matin? Mais parce que mes frères et sœurs, il y a des choses qui s'étaient effritées depuis quelques années, mais maintenant c'était carrément brisé, ça a été enlevé des nations, les principes, les vertus, l'intégrité, les valeurs chrétiennes dans tous les domaines, que ce soit politique, religieux, financier, c'est terrible. Ces quatre choses ont été enlevées des nations. Et ces quatre choses étaient les piliers qui formaient notre civilisation. Il ne faut pas oublier. C'était des ingrédients. C'est les ingrédients de la cohérence. Il y a de moins en moins de cohérence dans ce qui se fait, dans ce qui se dit. Si vous allez lire les articles dans les journaux, sur Internet, et puis qu'ensuite vous le lisez, les commentaires, mais c'est effarant. C'est effarant comment les gens pensent. Maintenant, alors que ça s'était effrité, ça s'est franchement écroulé, et cette situation dramatique, c'est irréversible. On ne reviendra pas en arrière. Il y a une ligne que Dieu avait placée. Il a dit, il ne faut pas franchir ça. Et on avait une certaine marge, mais maintenant, c'était trop loin. La ligne était franchie. Il fallait que ça arrive. Jésus avait averti qu'à la fin, il y aurait des temps difficiles. Mais voilà, les gens haussaient les épaules. Tout va bien, Madame la Marquise. C'était annoncé, c'est finalement arrivé. Maintenant, nous savons que la prochaine chose qui va être enlevée de cette terre, c'est nous. C'est-à-dire que Jésus va venir pour chercher les siens. Et comme il est écrit, en un clin d'œil, nous serons changés et nous disparaîtrons. Ça, vous pouvez toujours aller dans les églises, catholiques, protestantes, vous ne l'entendrez pas. Pourtant, c'est écrit dans toutes les Bibles. Cette Bible est une Bible catholique, traduction officielle de la liturgie, mais c'est dedans. Mais ils n'y croient pas. Nous croyons tout ce que Jésus a dit. Il a dit, comme je suis parti, je reviendrai. Je viendrai chercher les miens. Je les enlèverai de là. Et là, après, ça va être la cata, vraiment la cata. Mais en attendant, même s'il faut attendre que 2 jours, ça vaut la peine encore de s'encourager mutuellement, de s'encourager les uns les autres. En attendant ce jour merveilleux où nous partirons et nous laisserons tout cela ici-bas, eh bien, en attendant, je voudrais vous présenter un moyen de réussir votre vie et de connaître le bonheur. Parce que nous sommes le peuple de Dieu, Dieu prend soin des siens en particulier. Dieu a donné à chaque homme, à chaque femme, pas seulement aux siens, mais à chaque personne, la capacité de faire preuve de foi. Quand vous êtes entré dans cette chapelle, je dis toujours ça parce que c'est vrai, eh bien, vous ne vous êtes pas posé des questions pendant un quart d'heure avant de vous asseoir sur la chaise ou vous êtes assis sur la chaise parce que vous avez une capacité de foi. Vous n'êtes pas dit, tiens, est-ce qu'elle va me tenir? Est-ce que les pieds sont... Est-ce qu'il y a bien 4 pieds? Est-ce qu'ils sont tous solides? Est-ce que tout est bien vissé? Non, vous êtes assis. Dieu nous a donc à tous donné la capacité de faire preuve de foi, de confiance. Et pourquoi? Pour que nous puissions avoir une vie simple, une vie simplifiée, une vie sans tourment. Et puis aussi pour que nous puissions avoir un but valable dans notre vie. Parce que si on est tourmenté, toujours en train de se demander à chercher la petite bête et tout, on n'avance pas. Et on ne peut pas avoir une bonne vie. Cette capacité, ce pouvoir, vous l'avez. Bon, toutefois, pour utiliser ce pouvoir de la foi, parce que c'est un pouvoir, le pouvoir de la foi doit être enraciné dans quelque chose de sûr. Bon, par exemple, tu t'es assis sur la chaise. Bon. Voilà, c'était sûr. C'est une chaise, elle est faite pour qu'on s'assoie dessus. Et il y a des principes qui font que nous pouvons avoir une foi solide parce que notre foi est établie et enracinée sur des réalités, sur des choses de fondement plus solide que l'amour, la foi dans l'amour de notre Père Céleste. Alors, bon, je sais que certains chrétiens qui vont entendre ça vont me dire, oui, non, mais Michel, c'est pas ça. La véritable base de notre foi, c'est la connaissance des paroles de Dieu. Oui, c'est vrai, mais mes frères et sœurs, par l'expérience, ça fait quand même depuis 68 que je traîne mes guêtres dans les milieux évangéliques et autres, je peux vous dire qu'il y a des esprits tordus qui interprètent si mal les Écritures qu'aujourd'hui, ils se sont eux-mêmes disqualifiés quant à la foi, et ça se voit dans la réalité de leur vie. Parce qu'ils interprètent mal les Écritures, ils lui font dire ce qu'elle ne dit pas. Alors, avoir foi dans les Écritures qu'on tord, mais moi je ne tords pas les Écritures. Ah bon, comme diraient les Africains. Je crois que si au départ on n'a pas l'assurance que Dieu nous aime, ce livre-là, c'est difficile. Il faut d'abord avoir cette assurance. Voilà, Dieu m'aime. Dieu vous a créé, Dieu, il vous a mis là. Bon, maintenant. Vous ne vous en souvenez pas, mais vous étiez, avant votre naissance, en présence de Dieu, et vous avez choisi de venir ici. Et puis, il y a un plan pour vous. Vous ne vous en souvenez pas. Dieu a enlevé ça de votre mémoire. Et maintenant, vous êtes là pour faire preuve de foi, preuve d'amour. Et tant que vous ne rentrez pas dans ce système, dans ces principes, ben vous êtes à côté de la plaque, et c'est pourquoi le monde va là où il va en ce moment. Donc, avant de lire, rappelez-vous que Dieu vous aime. Ayez la foi dans son plan du bonheur. Dieu n'est pas un vicieux qui attend qu'une chose, c'est de vous mettre des bâtons dans les roues. Ayez la foi dans la volonté et le pouvoir de Jésus d'accomplir toutes ses promesses. À partir de là, vous pouvez commencer à construire. Je voudrais vous donner quelques principes fondamentaux sur lesquels repose la vraie foi. Parce qu'il y a, des fois timorées, il y a des fausses fois, il y a des fois erronées. La première chose, le premier principe, c'est la confiance en Dieu et en sa volonté de vous apporter de l'aide lorsque vous en aurez besoin. Il va vous aider, quelle que soit la difficulté. Deuxièmement, le deuxième principe sur lequel repose la vraie foi, c'est l'obéissance à ses commandements. Vous voyez que, par exemple, si vous désobéissez au deuxième principe, le premier principe, il ne tient pas. Il faut que tout ça soit cohérent. Donc, le deuxième principe, c'est que vous ayez une vie qui montre que votre relation avec Dieu est sérieuse. Quand on fréquente quelqu'un et qu'on envisage quelque chose avec cette personne, eh bien, on se montre sérieux. Et avec Dieu, eh bien, quand vous obéissez à ses commandements, vous montrez par là que vous cherchez à avoir une relation sérieuse avec lui. Et non pas simplement une façade religieuse. On appelle l'hypocrisie. La vie, votre vie, doit être une démonstration de votre amour pour Dieu. Dans votre façon de vous conduire, votre l'obéissance. Oui, mais pourquoi est-ce que je dois obéir? Parce que si tu n'obéis pas, tu vas faire du mal autour de toi. Si tu respectes pas les commandements de Dieu, c'est pas seulement à toi que tu vas faire du mal, mais c'est aussi aux autres. Parce que tu brises le système, tu vas à l'encontre du système. Voilà, par exemple, dans tout l'univers, tout répond à des lois. Il y a le monde tourne comme il tourne. Vous voyez le soleil, la lune, tout ça, on s'est habitué, mais ça tourne selon des règles, des lois. Et puis si tout d'un coup le soleil, je dis ben non. Bon, non, ça m'embête. Là, je tourne à l'envers, hein, puis la terre aussi, où je vais me faire des petits sauts comme ça. Eh bien, quand vous faites quelque chose qui est ce qu'on appelle un péché, c'est-à-dire le mot péché signifie erreur, quand vous faites quelque chose qui est une erreur, qui n'est pas selon les règles, les normes, soit vous vous faites du mal à vous, ou pire, vous faites du mal aux autres. Ça, c'est très embêtant. Le troisième principe sur lequel repose la vraie foi, c'est développer une sensibilité à écouter les chuchotements du Saint-Esprit. Et la soumission, l'obéissance courageuse à ses injonctions, à ses impressions, ses chuchotements, ces choses qu'il vous dit, le Saint-Esprit ne va pas venir derrière vous et vous dire «
Faut pas faire ça ».
Non, ce n'est pas comme ça. Mais comme vous avez lu les Écritures, vous connaissez ce qu'est la volonté de Dieu, générale, et puis dans les situations précises qui sont les vôtres, eh bien, les commandements, les ordres, les conseils du Saint-Esprit qui sont dans la Bible vont revenir à votre mémoire et vous allez pouvoir discerner quelle est la volonté de Dieu dans des situations précises. Mais il faut encore se rendre sensible. Si vous avez le casque toute la journée sur la tête et puis vous écoutez de la musique, ou si vous êtes toute la journée avec votre jeu ordinateur, ou si vous êtes toute la journée en train de vous... mais que vous ne mettez jamais de temps pour écouter ce que Dieu a à dire. Dieu, ce n'est pas une statue. Les statues, elles ont une bouche qui ne parle pas. Dieu parle, il est une personne. Dieu, ce n'est pas une statue qui a des oreilles qui n'entend pas, il a des oreilles, il vous entend. Alors, vous le priez, Seigneur, donne-moi ci, donne-moi ci, donne-moi ça. On dirait que vous faites des courses à Carrefour. Non, mais maintenant, écoute, qu'est-ce qu'il a à dire? Combien de gens écoutent? Peu de chrétiens ont compris cela, mes frères et sœurs. Peu de chrétiens ont compris cela. Le quatrième principe sur lequel repose la vraie foi, c'est votre patience. La patience quand Dieu vous laisse lutter pour votre progression. Ça, c'est quelque chose qu'alors là, franchement, c'est plus à la mode la patience. Abraham, combien de temps il a attendu son gamin? Hein? Combien de temps? Dieu avait promis. Et puis ça a duré des années, des années, des années. Mais il n'a pas menacé Dieu, il n'a pas menacé sa femme, il n'a pas... Non. Il a attendu la patience. Les réponses de Dieu peuvent venir petit à petit sur une longue période. Et peu de chrétiens ont compris ça parce qu'on est dans une société de consommation où on veut tout tout de suite et il nous semble que c'est absolument nécessaire, indispensable, il faut que ça soit comme ça. Et c'est notre pensée, on est bloqué dessus et on n'arrive pas à comprendre que Dieu est en train de nous dire autre chose. Il y a, mes frères et sœurs, une interaction entre votre foi et votre personnalité. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu, de ce qu'on comprend de la parole de Dieu. Et puis vous avez votre personnalité qui n'est pas la mienne, heureusement. Hein? Tant mieux pour vous, parce que ce n'est pas rigolo de gérer la tête à Michel Janton. Alors, gérez-vous vous-même, vous avez une personnalité. Et voilà pourquoi Dieu utilise votre foi dans le temps pour façonner votre personnalité. La personnalité, elle se tisse petit à petit. Aujourd'hui, j'ai reçu un SMS de mon frère Pierre Hamelin, on l'appelle Dominique. Enfin, non, on l'appelle Pierre, mais il s'appelle Dominique, c'est ça. Je ne sais plus maintenant. Dominique. Il me dit, j'ai 49 ans aujourd'hui. Ah, je dis, c'est formidable, tu te rends compte. On se connaît depuis que tu as 19 ans. C'est pas vieux, hein? Aïe. Eh bien, le Dominique d'aujourd'hui, ce n'est pas la même personne que le Dominique de quand il avait 19 ans. C'est une autre personnalité. Dieu a façonné sa personnalité. Et vous et moi, supposons qu'on se retrouve dans 20 ans là, top subitement, ben on serait un petit peu déconcerté parce que dans 20 ans, on ne sera plus les mêmes. Enfin, moi surtout, je serai. Notre personnalité, elle se tisse grâce au fil que sont les deux principes de l'âge. Alors là, les gens n'aiment pas. Ces deux fils, ils n'aiment pas. La doctrine et l'obéissance. La doctrine. La foi que vous avez dans l'amour de Dieu vous conduit à avoir une bonne et une saine doctrine. Parce que si vous n'avez pas foi dans l'amour inconditionnel de Dieu pour vous, vous risquez d'avoir une foi qui n'est pas dans la bonne doctrine, dans la saine doctrine. Vous allez avoir une doctrine légaliste ou une doctrine d'un Dieu sévère, méchant, pinailleur, vicieux, tout ce que vous voulez. Mais la foi que vous avez dans l'amour de Dieu vous conduit à avoir une bonne et saine doctrine, c'est-à-dire une bonne et saine compréhension des textes bibliques concernant toute chose. La Bible parle de tout. Hein. Et puis alors, à partir de là, vous manifestez ce que vous êtes en train de devenir. J'explique. Si vous avez une saine doctrine, cela augmente votre foi. Et votre foi produit des actions. La foi sans une action, c'est mort. Ça ne sert à rien du tout de dire j'ai la foi et qu'on ne le prouve pas par des actes. Donc, les actes que vous allez poser vont manifester ce que vous êtes en train de devenir, parce que les actes que vous posez façonnent votre personnalité. Et au grand jour des récompenses, à la fin, votre personnalité sera la mesure que Dieu va utiliser pour déterminer la manière dont vous aurez employé votre vie ici-bas. La personnalité qui va se présenter devant Dieu, ça servira de mesure. Alors que dire? Eh bien, qu'une personnalité moralement forte, elle est le résultat d'une vie, du vécu, systématiquement correct dans les moments d'épreuve. Je répète, une personnalité qui est moralement forte, elle est un résultat. On n'est pas fort, on n'a pas une personnalité forte au début, mais on tisse, Dieu façonne les événements, tout ça, et notre soumission à Dieu, à sa volonté n'est que bonne, eh bien, ça forme une personnalité, et cette personnalité moralement forte, équilibrée, c'est le résultat d'une vie, d'un vécu qui est systématiquement correct lors des moments d'épreuve. Parce que c'est pas quand tout va bien qu'on est en train de grandir, c'est quand tout va mal. Eh oui, en effet, comme ça. Vous croyez dans l'amour de Dieu? Alors, vous faites ce qui est bien selon lui, non pas selon vous. Je vais dire une chose terrible, mais quand les catholiques massacraient les protestants, ils étaient sûrs de rendre un culte agréable à Dieu. Ils pensaient faire le bien. Quand les musulmans fanatiques, pas tous les musulmans, ils ne sont pas tous fanatiques, mais quand les musulmans fanatiques assassinent nos frères chrétiens, nos sœurs chrétiennes, ils sont sûrs de rendre un culte agréable à Dieu. Ils sont sûrs de faire le bien. Ils sont endoctrinés comme ça. Ils ont une mauvaise compréhension de ce que c'est que l'amour de Dieu. Donc, tout est faussé et ils sont sûrs de faire le bien. C'est pourquoi je vous dis, faites ce qui est bien, mais pas le bien selon vous, mais le bien selon ce que Dieu dit. Amen. Tout ça, pourquoi? Parce que vos caractères, votre caractère, est en train d'être formé et vous ne pouvez pas faire des brèches sans arrêt, sans arrêt, sans... Parce que vos convictions vous poussent de plus en plus à la confiance, et la confiance vous pousse de plus en plus à de bonnes actions. Et en étant dans ce cycle, bien, vous allez recevoir des confirmations intérieures, c'est-à-dire une paix qu'on ne peut pas expliquer. Une paix, Jésus dit, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde. Il nous donne dans ce système-là, dans ces principes-là, dans cette façon de vivre, dans ce style de vie, il nous donne une paix intérieure parce que tout simplement nous agissons en accord avec nos convictions qui sont basées sur le fait que Dieu nous aime. Quelque chose de mal t'arrive, c'est parce que Dieu t'aime. Une catastrophe t'arrive, c'est parce que Dieu t'aime. Une difficulté t'arrive, c'est parce que Dieu t'aime. Maintenant, cherche à comprendre pourquoi. Pas pourquoi il t'aime, non. Ça, c'est incompréhensible. Mais pourquoi ça t'arrive? Mes frères et sœurs, lorsque vous avancerez jusqu'à la frontière entre votre compréhension et la pénombre des incertitudes, lorsque vous irez jusqu'au bout de cela, eh bien, vous serez conduit à trouver des solutions aux difficultés de la vie. Mais il faut aller jusqu'à la frontière. Il ne faut pas franchir la frontière. Il faut aller jusqu'à la frontière. Parce qu'on ne peut pas obtenir autrement que par la foi. Et marcher par la foi, c'est aller jusqu'au bout de nos certitudes, jusqu'à la frontière. Et on dit non, si je vais plus loin là, c'est des incertitudes, c'est incompréhensible, c'est illogique, c'est même injuste, etc., etc. Donc je reste du bon côté de la frontière. Je ne vais pas dans la pénombre. Si vous rentrez dans la pénombre, vous êtes foutu. Il va vous falloir vous repentir. Ça va être difficile de reconstruire ce que vous aurez brisé, etc., etc. Alors, même si vous avez une très grande foi, Dieu ne vous récompensera pas toujours immédiatement selon vos désirs. Et pourquoi? Il pourrait le faire. Ça serait tellement plus simple. Mais non, mais c'est parce que vous avez oublié quelque chose de très important, d'essentiel, je vais vous dire. Parce que Dieu veut vous accorder ce qu'il y a de mieux pour vous dans son plan éternel. Et le mieux pour vous, ce n'est pas ce que vous êtes en train de demander.
ma voiture, mon boulot, mon ceci, mon cela. Ce qu'il y a de mieux pour vous, c'est votre caractère.
Dieu veut vous accorder ce qu'il y a de mieux pour vous dans son plan éternel. Votre caractère. L'exercice constant de votre foi vous donnera une force de caractère qui va durer dans l'éternité. Elle vous sera précieuse, cette force de caractère, dans les moments décisifs de votre vie actuelle ici-bas dans ce monde, mais elle sera aussi très utile dans l'éternité pour faire ce que vous aurez à faire, parce que vous aurez à faire des tas de choses dans l'éternité. Dans l'éternité, vous ne serez pas un esprit posé sur un nuage et puis qui passera l'éternité. Il y a un homme, je crois que c'est des proches, qui a dit l'éternité c'est long, surtout vers la fin. Mais ça ne sera pas long parce qu'on ne s'embêtera pas. On aura des tas de choses à faire. Mais il vous sera donné de faire des choses selon la force de votre caractère. Si vous n'avez pas développé un caractère fort ici-bas, ben vous aurez des broutilles à faire dans l'éternité. C'est dommage pour vous, hein, éternellement des broutilles. Vous ne pouvez pas progresser. On va reparler de ça un de ces jours quand je reviendrai sur l'enseignement des mariages éternels. Il y a des endroits dans l'éternité où on ne peut pas progresser. Où on est bien, on est sauvé, c'est merveilleux, tout ce que vous voulez, mais on ne peut pas progresser. Alors qu'il y a des endroits, et à partir d'un endroit, où on peut progresser. Je vous enseignerai ça prochainement dans une de mes prédications, puisque nous allons faire des bénédictions de mariage éternel au printemps. Vous savez, il y a une chose qu'il faut vraiment se mettre dans le crâne. Les moments de grande difficulté, ou les moments de tentation, ne sont pas les moments où on acquiert ce genre de personnalité. Ce n'est pas là qu'on acquiert ce genre de personnalité. Ce sont dans les moments, dans ces moments-là, c'est ces moments où on doit se servir de notre personnalité qu'on a acquise par le passé dans d'autres problèmes. Et quand vous sortez de cette difficulté en ayant mis en pratique ce que vous avez appris et ce que vous êtes devenu au travers des difficultés passées, eh bien vous sortez de vos difficultés grandis. Mais ce n'est pas quand vous êtes dans la difficulté qu'il faut vous mettre à prier, à obéir en disant « je vais essayer d'attirer l'attention de Dieu ». Non, c'est trop tard là. Un peu désespérant, hein. Oui, mais c'est pour apprendre. Je connais un frère qui, il y a quelques années en arrière, s'est fait piquer son permis de conduire. Mais c'est bien fait pour lui. Il n'avait qu'à faire correctement les choses. Il ne serait pas fait retirer le permis. Et aujourd'hui, maintenant, il s'est repenti, il a changé de vie. Et il va avoir son permis bientôt. Amen. Mais il a fallu attendre du temps pour que ça revienne. C'est long quand on ne veut pas faire les choses correctement. Ou qu'on ne peut pas faire les choses correctement parce qu'on est environné d'une bande de zoulous qui nous empêche. Les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes mœurs. Les moments de grande difficulté ou de tentation ne sont pas les bons moments pour commencer à se mettre en ordre. Désolé. Vous pouvez le faire, mais ça ne va pas résoudre vos difficultés. C'est ça que je veux dire. Ça ne va pas résoudre vos difficultés. Ça va simplement vous permettre de faire de l'ordre en vous. Il vaut mieux pour vous que vous occupiez vos jours simples, les jours, je ne sais pas si ça se dit les jours banaux. Non, c'est banal. Hein? On dit toujours banal. Hein? Les jours banals pour former votre caractère. C'est quand même bizarre le français, hein? Les jours banaux. Non. Il faut utiliser nos jours simples pour former notre caractère, c'est-à-dire faire des exercices de foi, avancer, aller un peu plus loin que là où on irait normalement, faire le kilomètre plus, hein, comme on aime bien dire chez nous. Mais si nous ne voulons pas obéir dans les moments où tout va bien, eh bien les difficultés vont nous mettre face au mur, pour ne pas vous dire les difficultés vont vous mettre dans le mur. Vous voyez? Et nous devons nous battre comme des malades parce que... Des malades qui n'ont pas la personnalité qu'il faut, le caractère bien formé, alors on se bat, c'est dur. Vous voyez pourquoi certains finalement tombent, abandonnent, laissent tomber, renient leurs alliances parce qu'ils n'en peuvent plus, ils sont fatigués de tout ça. Eh bien, je vous apporte ce message ce matin pour vous dire, bon, le monde est foutu, il a franchi la ligne, il était trop loin, mais pour vous, il y a encore possibilité de changer. Dieu vous aime. La foi dans l'amour de Dieu, elle est nécessaire et c'est sur cette base que peut s'établir le fondement de votre caractère, le fondement de la force de votre caractère. Le fondement de la force du caractère, c'est d'abord l'intégrité. Qu'est-ce que ça veut dire l'intégrité? Ça veut dire être entier, être vrai. L'intégrité vous donnera un sentiment de dignité. On a besoin tous d'avoir un sentiment de dignité, de se sentir digne. Et puis alors, quand vous avez ce sentiment de dignité va renforcer votre capacité à reconnaître les directives que le Saint-Esprit vous chuchote et à y obéir. Vous voyez que c'est un cycle. Une personnalité solide a plus de valeur que tout ce que vous pouvez posséder ou de tout ce que vous pouvez désirer ou de tout ce que vous avez appris. Une personnalité solide, ça a plus de valeur que les buts que vous cherchez à atteindre. C'est pourquoi Dieu ne vous donne pas tout de suite ce que vous cherchez à atteindre, parce qu'il voit qu'il y a un problème de caractère d'abord. Oh, Michel, tu me tapes dessus. Oui. Oui. Qui est en train de trouver que je lui tape dessus? Levez la main. Personne? Non, vous êtes gentil. Moi, je trouve que je me tape dessus quand je dis ça. Qui c'est qui se trouve que je lui tape dessus là? Ça, c'est dans l'ordre de Dieu. C'est les cycles. Premièrement, l'exercice de votre foi, ça forge la force de votre caractère. Ensuite, la force de caractère augmente votre capacité d'exercer votre foi. Et ensuite, cela renforce votre confiance pour surmonter les épreuves suivantes. C'est un cycle, et c'est un cycle de renforcement. C'est pas je suis en train de tourner en rond, non. C'est une spirale qui monte et qui se renforce, ça se renforce. Un cycle qui se répète parce que votre personnalité se renforce, plus vous devenez capable d'exercer le pouvoir de votre foi, plus votre personnalité se renforce. Alors il faut être vaillant, la Bible nous dit soyez vaillants. C'est un combat, c'est un combat qui se livre sur la base de la personnalité, nous en avons tous une différente et regardez comment Satan s'ingénie, n'est-ce pas, et avec ses troupes. Ils ont défini leur personnalité en s'opposant résolument à la volonté de notre Père. Ils ont défini leur personnalité en violant constamment les commandements de Dieu. Ils l'ont voulu, ils l'ont fait. Et ça a défini qui ils sont. Mes frères et sœurs, toute votre vie, vous serez récompensés des efforts que vous ferez à faire le bien, et ni Satan et ni les autres pouvoirs ne pourront affaiblir ou détruire votre force de caractère qui va croissant. Rien, sinon vous-même. Vous êtes le seul à pouvoir affaiblir ou même détruire votre force de caractère. Le seul à pouvoir foutre en l'air votre vie. À pouvoir perdre votre vie. Personne ne peut perdre votre vie. Personne ne peut vous réduire à néant. Il n'y a que vous qui pouvez. Vous êtes votre pire ennemi. Mais vous pouvez être votre meilleur ami. Par votre désobéissance, vous pouvez détruire votre force de caractère. Par votre manque de soumission aux bonnes lois naturelles, morales et spirituelles données par Dieu, pour que votre vie soit agréable, vous pouvez réduire votre caractère à néant, votre force de caractère à néant. Voilà pourquoi Satan, n'est-ce pas, se consacre aussi fort à vous tenter, parce qu'il veut que vous preniez des décisions qui vous affaiblissent, qui affaiblissent votre caractère, et puis que vous ne soyez pas fiers de vous, etc. Satan est passé maître dans l'art de rendre les choix désastreux, attrayants et même raisonnables. Les gens trouvent que c'est raisonnable de faire ceci, de faire cela, et puis ils foncent dans le truc. En fait, ils tombent dans les pièges de l'ennemi. Alors soyez prudents. Soyez prudents. Votre prudence ou votre non-prudence affectera toute votre vie ici-bas et même votre éternité. Voilà. Ce n'est pas une petite affaire. Satan, il nous pousse toujours à prendre des décisions en fonction des circonstances. Il nous affole. Hein, voilà, c'est comme ça. Il faut que je réagisse. C'est les circonstances. Dieu, lui, par contre, il nous invite à prendre des décisions en fonction des principes éternels. Différents. Des principes éternels qui gèrent toute sa création. On ne réagit pas par rapport à la circonstance. Satan, il vous pousse à prendre en considération les circonstances. Bon, qu'est-ce qu'ils font les autres dans cette situation? Bon, qu'est-ce qui est le plus raisonnable et le plus socialement correct? Bon, est-ce que ce que je fais là, si je le fais, est-ce que ça va entraîner des conséquences plus rapides ou est-ce que ça va être plus satisfaisant que si je fais ça, comme ça? Et ça, c'est pas comme ça. Ça, c'est, vous pouvez être sûr, ça, c'est l'ennemi qui est en train de vous mener par le bout du nez. Ça semble sage, ça semble intelligent. L'autre jour, je regardais une émission sur Top Chrétien qui disait, c'est un pasteur qui disait, ce qui est important, c'est l'épanouissement personnel. Je dis non, Jésus ne dit pas ça. Et Jésus ne dit pas ça. Vous voyez, ça semble sage, ça semble intelligent, c'est séducteur, mais il n'y a pas l'ensemble des valeurs et des principes de base que Dieu nous a donnés pour que nous ayons une vie agréable, harmonieuse. Alors celui qui marche ainsi, celui qui veut marcher en écoutant ces choses-là de l'ennemi, eh ben, il ne peut pas s'attendre à recevoir l'aide de Dieu, il ne peut pas, ce n'est pas possible. Ah, il peut prier tout ce qu'il veut, mais c'est comme s'il essaie d'enfiler une boule dans un trou qui est fait pour recevoir un cube. Ça ne marche pas. Lisez ce que la Bible dit, abandonner à sa seule force et à la force aussi de ceux qui veulent bien l'aider. Mais tout ça, hein, jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas très, très efficace. Ça tient un temps. Alors malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui prennent leurs décisions comme ça, comme les gens du monde, et c'est à cause de cela, de cette façon d'agir, que le monde est en train de passer par une tourmente. Ne venez pas me dire le contraire, c'est général, c'est même épouvantable. Alors vous voyez, le modèle que nous donne le Seigneur consiste à ce que nous fassions rien en dehors de sa volonté éternelle, de ses principes éternels. Et pour qu'on y arrive, notre vie doit être centrée sur ce que Dieu veut. Il faut que nous connaissions ce que Dieu veut. Et sur les règles qu'il nous a données. Il faut que nous connaissions les règles. Quand vous achetez un appareil, j'ai acheté un téléviseur en 3D. Il fait des tas de choses. Il paraît que même, il peut s'allumer si je lui parle d'une certaine manière. Il paraît que si je bouge la main comme ça, je change de chaîne. Mais je n'ai pas lu le mode d'emploi, donc mon téléviseur super sophistiqué marche comme un vieux téléviseur des années 60. Vous voyez ce que je veux dire? Ben, c'est la même chose. Si vous ne voulez pas mettre en pratique les règles, si vous ne voulez pas connaître le mode d'emploi de la vraie vie, eh bien, vous serez un vieux téléviseur des années 60. Il faut que vous, Dieu veut que vous ayez une vie paisible, harmonieuse, tranquille, joyeuse. Bien sûr, vous aurez des difficultés, mais vous aurez la force de caractère pour les vaincre, etc. Si vous entrez dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire si vous entrez, pas dans une église, c'est pas ça le royaume de Dieu. Entrer dans le royaume de Dieu, ça veut dire entrer dans ce monde où Dieu est le chef, est le maître. Il est notre Seigneur. Et si vous rentrez dans ce royaume-là où on met en pratique ses bonnes règles, eh bien, vous jouirez en plus d'être fort, d'être capable, d'être stable. Vous jouirez de l'inspiration du Saint-Esprit, de la présence du Saint-Esprit pour vous chuchoter encore des petits trucs pour que ça aille mieux, de son amitié. Et vous jouirez aussi du pouvoir miraculeux si c'est nécessaire. Tout ça, ça fait partie des promesses de Dieu, mais ce n'est pas accordé comme ça gratuitement. Il y a un prix à payer. Et le prix à payer, c'est votre consécration. C'est de dire, Seigneur, bon, maintenant je reconnais, j'en ai marre, j'ai voulu faire comme j'ai voulu, ben voilà où ça m'a amené, maintenant je veux changer. C'est ça, se repentir. Alors je vais revenir dimanche prochain sur ces choses, Dieu voulant, mais en attendant, gardez bien à la mémoire que vous êtes ici-bas sur cette terre pour faire vos preuves et pour vous développer. C'est ce que vous avez décidé avant de venir sur cette terre. Vous avez décidé de venir ici pour faire vos preuves et pour vous développer en vue d'une éternité meilleure. Et puis tout ça, faire ses preuves, et surmonter, et se développer, tout ça, ça ne se passe qu'au travers de l'adversité. Alors c'est vrai que vous rencontrerez sans cesse des difficultés, et puis elles vont vous obliger à réfléchir, elles vont vous obliger à juger convenablement, hein, l'homme spirituel juge de tout, et puis elles vont vous conduire à agir avec droiture, les contrariétés, les difficultés. Donc, ne les évitez pas, ne cherchez pas à éviter les difficultés, ne cherchez pas ça, affrontez-les avec foi. Il ne faut pas les éviter. Il y a une sorte de difficulté que vous pouvez éviter. C'est celle qui découle de vos transgressions graves. Quand vous faites des bêtises, alors là, vous ne pouvez pas. Alors, pour éviter quand vous retirez votre permis, par exemple, ben,
faut pas rouler bourré.
Je simplifie, hein, mais c'est un peu ça. Si vous cessez de transgresser les bonnes lois de Dieu, ben, votre vie sera plus simple, plus heureuse, paisible. Alors, dès maintenant, mon frère, ma sœur, peuple du Seigneur, vous qui m'écoutez là, entrez dans la louange. Dans quelle louange? Remerciez Dieu pour déjà le mode de vie différent que vous avez adopté par votre conversion, un mode de vie différent de celui des gens de ce monde qui vivent n'importe comment, sans foi ni loi, sans carte de route, ils vont au petit bonheur la chance et puis c'est du profit. Remerciez Dieu pour l'aide qu'il vous a déjà apportée par le passé. Ensuite, remerciez Dieu pour son inspiration qui vous a guidé jusqu'ici ce matin à écouter ce que vous êtes en train d'écouter. Et puis ensuite, remerciez Dieu du fait qu'il va vous garder, qu'il va vous conduire dans le bon chemin, que vous n'allez pas dérailler parce qu'il l'a promis qu'il vous garderait du déraillement. Alors, Jésus ne vous donne même pas le choix. Pourquoi? Parce que le choix, il a déjà été fait. Vous avez déjà fait le choix autrefois dans votre passé éternel. Donc maintenant, vous n'avez qu'à vivre, à faire la preuve de votre amour pour Dieu. Alors, n'allez pas boire à d'autres sources. Il y a beaucoup de gens qui maintenant se lassent, ils disent, bon, les Écritures, je connais. Alors, on connaît beaucoup, pas mal de jeunes gens qui se sont empoisonnés la vie en allant chercher comment vivre dans d'autres sources. Eh bien, ils ont perdu de vue les vrais principes. Et ils ont été tentés d'accepter des compromis parce que cela leur semblait un chemin plus facile, un chemin plus aisé. Et aujourd'hui, ben, comme ils ont honte, ben, ils ne veulent pas avoir l'air, alors ils justifient leur déviation. Ils ne vont pas vous dire qu'ils ont honte, mais ils justifient leur déviation. Et ils se persuadent eux-mêmes que plus tard, ils vont arranger ça, que ça va aller. Mais à la longue, ce mode de vie les emmènera justement là où ils ne veulent absolument pas aller, c'est-à-dire à l'échec, c'est-à-dire au divorce, à la confusion, à la honte, à l'échec, voire au désespoir. Alors mes frères et sœurs, attachez-vous à Jésus. On a un petit chant, je demande aux musiciens de s'approcher maintenant. Venez les musiciens, on a un petit chant qui dit « Vers Jésus lève les yeux ». On va le chanter ensemble, et pendant qu'on va chanter ce petit chant ensemble, tu continues à enregistrer, mon frère Franck, pendant qu'on chante ce petit chant, « Vers Jésus, lève les yeux », eh bien on pense, on réfléchit, c'est-à-dire on médite, et on prend la décision, « Oui Seigneur, je veux rentrer dans ce cycle, si je suis sorti de ce cycle, je veux rentrer de nouveau. Si dans ce cycle, je suis au moment où je suis vraiment dans le bas, dans le fond, où je suis ballotté dans tous les sens parce que j'ai pris des mauvaises décisions, parce que je n'ai pas bien écouté le Saint-Esprit, ou parce que ceci, ou parce que cela, eh bien maintenant, je crie à Dieu, Seigneur, aide-moi à voir clair et je veux remonter, je veux revenir de nouveau dans la vérité, je veux revenir dans la stabilité, dans la fidélité à ta parole, à mes engagements. Merci Seigneur Jésus, merci de m'aider. Pendant qu'on chante ce chant, pensez à toutes ces choses et fortifiez votre cœur avec cela. Chantons vers Jésus, lève les yeux, déposons notre vie sur l'autel et sortons d'ici, mes frères et sœurs, lavés et purifiés. Pour une vie nouvelle, purifiée de cette vie qu'on a menée jusqu'à maintenant. Amen. Vers Jésus, lève les yeux, contemple son visage merveilleux, et les choses de la terre pâliront peu à peu. Si tu lèves un ami merveilleux, son nom gagnant n'a rien de comparable sur cette terre et là-haut dans les cieux. Jésus, lève les yeux, contemple son visage merveilleux et les choses de la terre pâlit peu à peu. Si tu lèves vers Jésus les yeux, Christ est pour moi.
Seigneur, je ne te comprends pas bien. Je ne sais pas grand-chose. Mais je veux faire la paix avec toi. Je veux marcher avec mon Créateur. Merci, Jésus.